Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le seul désir dans la nudité des tantras d'Éric Barret est un ouvrage de spiritualité présenté sous la forme d'entretien. Inscrit dans l'horizon du yoga tantrique du shivaïsme du Cachemire et marqué par l'enseignement non-duel de Jean Klein, il ne propose ni méthode technique ni exotisme religieux. Son propos est plutôt de défaire les représentations occidentales qui réduisent le tantra à une sexualité ritualisée ou à une promesse de développement personnel. Barret interroge le désir, l'amour, la souffrance et la liberté à partir de l'expérience immédiate. Les dialogues servent moins à transmettre un savoir systématique qu'à déplacer les certitudes du lecteur sur lui-même et sur ce qu'il cherche. Le livre vise ainsi une écoute sans objectif d'acquisition, attentive aux mouvements du mental et aux attentes qui organisent ordinairement l'existence. Sa démarche peut être exigeante, car elle refuse les réponses rassurantes et les recettes de transformation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le tantra ramené à une interrogation sur la souffrance, le livre prend nettement ses distances avec les images les plus diffusées du tantrisme en Occident. La présentation éditoriale insiste sur le rejet d'un romantisme sexuel infantile et des caricatures colorées qui ont souvent remplacé la compréhension d'une tradition complexe. Ce geste n'est pas seulement correctif sur le plan culturel. Il permet de recentrer le tantra sur une question existentielle plus directe, celle de la souffrance et des mécanismes par lesquels elle se maintient. Dans cette perspective, le tantra ne constitue pas un ensemble de pratiques destinées à produire des expériences exceptionnelles. Il devient un éclairage sur les façons de penser, d'agir et de se définir qui enferment les individus dans l'insatisfaction. Le titre évoque une nudité des tantras qui renvoie à cette volonté de dépouillement. Il s'agit de retirer les projections, les promesses et les fantasmes accolés à la tradition pour regarder ce qui se passe réellement dans l'expérience. Cette orientation explique le ton sans concession souvent relevé par les lecteurs. L'enjeu n'est pas de défendre une doctrine orientale, mais de mettre à l'épreuve les constructions mentales qui transforment la recherche spirituelle elle-même en objet de consommation ou en nouvelle identité. Deuxièmement, le désir examiné au-delà de la quête d'objets, la question du désir occupe une place explicite dans le projet du livre. Plutôt que de l'aborder comme une force qu'il faudrait satisfaire, moraliser ou supprimer, les entretiens invitent à observer son mouvement. Le désir ordinaire se fixe volontiers sur un objet, une relation, une amélioration personnelle ou un état intérieur supposé apporter enfin la plénitude. Le problème n'est alors pas l'apparition d'une préférence ou d'un élan, mais la croyance que l'objet convoité peut combler un manque fondamental. Cette attente rend l'expérience dépendante de résultats futurs et entretient l'agitation. La formulation du seul désir suggère un déplacement de la recherche vers ce qui précède les multiples objets désirés. Le livre ne fournit pas, d'après les informations disponibles, une théorie psychologique détaillée du désir. Il ouvre plutôt un espace d'examen où le lecteur peut reconnaître la tension entre ce qui est vécu et ce qui est constamment demandé à la vie. Cette approche non-dualiste évite aussi de faire du renoncement une performance. Rejeter le désir avec volonté peut encore renforcer le sujet qui veut se purifier ou s'améliorer. La tension proposée cherche donc moins à contrôler les mouvements intérieurs qu'à voir la structure d'attente qui leur donne leur pouvoir. Troisièmement, le mental et le savoir comme obstacle à une écoute directe, Éric Barret met en question la prééminence du mental sans pour autant présenter celui-ci comme un ennemi à combattre. Cette nuance est centrale pour comprendre l'orientation du livre. Les difficultés ne proviennent pas nécessairement de la pensée elle-même, mais de l'autorité qu'on lui accorde lorsqu'elle prétend définir ce qui devrait être, interpréter définitivement l'expérience ou connaître à l'avance le bien de chacun. Les lecteurs cités dans les sources soulignent notamment une critique de la prétention à savoir et des idées arrêtées. Dans le cadre des entretiens, cette critique a une fonction pratique. Elle désarme la tendance du chercheur spirituel à accumuler des concepts, à comparer ses progrès ou à convertir chaque indication en programme personnel. Une écoute plus directe devient possible lorsque le commentaire intérieur n'est plus pris pour la réalité. Cela ne signifie pas l'abandon de l'intelligence ni l'adhésion à l'irrationalité. Le livre semble plutôt demander une humilité intellectuelle capable de reconnaître les limites des explications face à l'expérience vivante. Cette position distingue son usage de la non-dualité d'un simple système philosophique. La compréhension n'est pas recherchée comme possession mentale, mais comme disponibilité à ce qui apparaît, y compris l'incertitude, l'inconfort ou l'absence de réponse immédiatement formulable. Quatrièmement, des entretiens sans promesse de méthode ni de maîtrise, la forme dialoguée correspond au contenu du livre. Les entretiens ne semblent pas organisés pour bâtir un manuel progressif du tantra avec étapes, techniques et résultats attendus. Ils privilégient une parole de rencontre, décrite par la présentation comme l'occasion de retrouvailles profondes. Ce choix est cohérent avec une tradition non-duelle qui se méfie de la logique d'acquisition. Une méthode peut être utile dans certains contextes, mais elle risque aussi de renforcer l'idée qu'un individu séparé doit devenir autre chose pour atteindre la paix. Ici, l'accent est mis sur l'écoute sans but de profit, formule associée à la démarche de Barret. Le lecteur est donc moins placé dans la position d'un élève qui collecte des consignes que dans celle d'un interlocuteur invité à examiner ses attentes. La parole peut paraître déroutante à qui cherche des définitions stables ou des exercices immédiatement applicables. Son efficacité éventuelle dépend de la qualité d'attention accordée aux questions soulevées plutôt que de la mémorisation de réponses. Cette absence de programme est aussi une limite pratique assumée. Le livre ne remplace pas une étude historique des tantras, une formation au yoga ou un accompagnement thérapeutique. Il offre un cadre de réflexion et de contemplation, non un protocole universel pour résoudre les difficultés de l'existence. En dernier lieu, amour, liberté et joie sans idéal à atteindre, le livre relie les questions du désir et de la souffrance à celles de l'amour, de la liberté et de la joie. Toutefois, ces termes ne sont pas traités comme des récompenses réservées à une réussite spirituelle. La présentation demande si la joie ne serait pas plus proche que l'imagination ne le suppose, ce qui inverse le schéma habituel de la quête. Au lieu de chercher un état extraordinaire dans le futur, le lecteur est invité à considérer ce qui voile la simplicité de l'expérience présente. L'amour cesse alors d'être seulement la confirmation affective attendue d'autrui ou l'accomplissement d'un idéal romantique. Dans une perspective non duelle, il peut être compris plus largement comme l'absence relative de résistance à ce qui est. Cette orientation exige de ne pas transformer la liberté en nouvel objectif à conquérir. Vouloir être libre peut reproduire la division entre une personne insuffisante et un état supérieur imaginé. Les entretiens cherchent précisément à rendre visible cette division et les tensions qu'elle engendre. Le bénéfice intellectuel du livre réside dans cette critique des finalités spirituelles trop facilement converties en ambition personnelle. Son bénéfice existentiel potentiel tient à une relation plus sobre aux pensées, aux émotions et aux circonstances. Il ne promet pas d'éliminer l'inconfort, mais propose de ne pas y ajouter systématiquement le conflit créé par l'exigence que l'expérience soit différente. En conclusion, le seul désir dans la nudité des tantras s'adresse surtout aux lecteurs déjà attirés par la non-dualité. Le yoga tantrique du Cachemire ou les interrogations spirituelles sur le désir et la souffrance. Il peut également intéresser ceux qui veulent corriger une compréhension réductrice du tantra, souvent limitée dans l'imaginaire occidental à la sexualité ou à des techniques de bien-être. En revanche, il conviendra moins à qui cherche une introduction universitaire à l'histoire des traditions tantriques, un guide de posture ou une méthode graduée de méditation. Son apport pratique est indirect mais précis, en déplaçant l'attention de la conquête d'expérience vers l'observation des attentes. Il fournit des repères pour reconnaître le rôle du mental, de l'idéalisation et du besoin de maîtrise dans l'agitation intérieure. Son apport intellectuel est de maintenir ensemble rigueur critique et langage de l'expérience, sans faire de la non-dualité une théorie abstraite. Par rapport à de nombreux ouvrages de spiritualité, il se distingue par son refus de vendre une transformation, une identité de pratiquant ou une promesse de bonheur durable. Par rapport aux livres populaires sur le tantra, sa singularité tient à son effort de dépouiller cette tradition de ses projections sensationnalistes. La forme d'entretien renforce enfin ce positionnement, en privilégiant des questions vivantes plutôt qu'un discours dogmatique. C'est donc une lecture exigeante, à aborder lentement pour sa capacité à mettre en doute les réflexes même de la recherche spirituelle. Si vous souhaitez soutenir Éric Barret, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.